Salut les sportifs intelligents, est-ce que tu savais qu'à partir de 30 ans, ton capital en collagène décline? Et ce déclin est loin d'être anodin, puisque le collagène, c'est ce qui permet d'avoir une bonne élasticité de peau, récupérer beaucoup plus vite au niveau musculaire et articulaire, et même avoir des ongles et des cheveux qui seront solides. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'à partir de 30 ans, les premières rides commencent à apparaître et que tu mets beaucoup plus longtemps à récupérer de tes séances de sport. Le problème, c'est que dans notre alimentation moderne, on mange beaucoup moins de collagène qu'il y a 50 ans. C'est pour ça que je te recommande vivement le collagène Peptan de mon sponsor NutriPure. Ce collagène bovin de type 1 est certainement l'un des plus purs et l'un des plus biodisponibles qu'il existe sur le marché. Personnellement, j'ai vu une réelle différence à partir du moment où j'ai commencé à consommer tous les jours du collagène, notamment au niveau de ma santé musculaire et articulaire. Et autre petite astuce pour éviter d'oublier d'en prendre tous les jours, j'en prends 10 grammes que je mets dans mon café de le matin et ça me permet d'être sûr que je commence ma journée avec mon quota de collagène. Donc si tu as envie d'essayer le collagène Peptan de chez NutriPure, tu as un lien en description et au moment de créer ton compte, tu mets mon code promo SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi.
Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler d'entraînement fonctionnel. On va le comparer avec ce que c'est la musculation traditionnelle, hein, l'entraînement traditionnel en musculation et en renforcement musculaire. Mais avant ça, même si tu sais pas ce que c'est, du coup, l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle, t'en fais pas, je vais tout t'expliquer. Mais avant ça, j'aimerais te poser la question de est-ce que tu t'es déjà blessé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser dans ta vie? Oui ou non? Si t'as répondu du coup non, hein, c'est certainement parce que tu n'es pas sportif, que tu n'as jamais pratiqué beaucoup de sport dans ta vie, et que tu t'es peut-être même perdu sur l'application de podcast et que tu m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que pour 99,9% des cas, quand on fait du sport régulièrement, on se blesse. Hein. C'est quelque chose qui est déjà arrivé à presque l'ensemble des sportifs qui se blessent même régulièrement. Et toi, si tu te blesses régulièrement, si tu as déjà vécu ça, c'est certainement que tu vis encore dans les années 70. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans les années 70, si tu veux, c'était presque normal pour un sportif de se blesser. Ça faisait partie du processus à peu près normal de se blesser pendant l'entraînement, notamment pour les sportifs de bon et haut niveau, hein. Forcément, pour quelqu'un qui fait une fois par semaine du sport, il peut arriver et passer à travers des blessures, mais pour quelqu'un qui fait du sport régulièrement, dans les années 70, voilà, c'était le processus qu'on considérait comme normal de se blesser. Voilà, il y avait toujours une part de peut-être que le sportif à cette séance d'entraînement-là va se blesser. C'était inévitable, mais maintenant, on n'est plus dans les années 70, on est en 2021 au moment où je tourne ce podcast. Et du coup, grâce aux sciences du sport, on sait comment limiter le risque de blessure. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cet épisode de podcast. Alors, comme prérequis, bien sûr, je pars du principe que tu as déjà écouté le podcast de la semaine dernière où je te parlais que justement un sportif qui cherche à s'améliorer, à performer, il est obligé d'intégrer des séances d'entraînement musculaire. C'est obligatoire. Si tu es justement un sportif qui cherche à s'améliorer, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font juste du sport parce que ça les défoule, parce qu'ils ont envie de se vider la tête après le travail, qui cherchent pas à s'améliorer, je sais pas, admettons, tu cours après le travail et que tu fais ton 30 minutes et que tu n'en as rien à faire de faire 2 km, 3 km, 4 km, 5 km en 30 minutes ou je sais pas, même plus. Il y en a des personnes, et il n'y a aucun jugement de valeur, qui ne cherchent pas à s'améliorer sur ce point-là et qui veulent juste se défouler. Ces personnes-là, je vais les exclure un petit peu du podcast. Alors, si tu es curieux et que tu es dans ce cas-là, tu peux bien sûr continuer à m'écouter. Mais si tu es dans le cas où justement, toi, tu cours, par exemple, tu cours, pour prendre l'exemple de la course, hein, c'est un podcast de sport ici, donc c'est plus général que ça, mais par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui court. Si tu cours 3 km et que tu aimerais courir 4 km en 30 minutes, puis 5, puis 6, puis 7, etc., tu es au bon endroit et du coup, Dans la semaine dernière, je t'avais expliqué que tu étais obligé d'inclure dans ton entraînement de course à pied des séances d'entraînement musculaire. C'est obligatoire, c'est même un prérequis obligatoire. Dans un premier temps, pour passer à travers des blessures, ok, comme tu vas le voir dans cet épisode-là. Dans un deuxième temps, pour progresser, hein, puisque justement l'entraînement musculaire en dehors de ton sport de prédilection va te permettre de progresser. Et pour ceux qui progressent, qui progressent, qui progressent et qui ne s'arrêtent plus, bah pour performer et pour pourquoi pas faire de la compétition pour certains d'entre vous. Donc voilà. Et ça, c'est un prérequis, c'est de faire un entraînement, enfin plusieurs entraînements même, qui soient en dehors de ton sport spécifique. Hein. C'est une sorte de préparation physique si tu veux. Donc voilà. Donc je vais considérer que tu t'entraînes en dehors de tes séances spécifiques techniques, en dehors de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on veut intégrer justement ces séances de préparation physique, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'entraînement? Pour t'expliquer ça, je vais faire un petit flashback parce que ça serait trop simple de t'expliquer ça comme ça et de prendre des raccourcis un petit peu. On va faire un petit flashback de comment ça se passait avant. Ok, comment les sportifs s'entraînaient. Donc, quand je dis sportifs, là, je prends l'exemple de toujours les sportifs de haut niveau, puisque ce qui est valable pour le haut niveau est valable pour le sportif semi-pro. Ce qui est valable pour le semi-pro est valable pour l'amateur qui est passionné et qui veut progresser, etc., etc. Donc, on prend toujours l'exemple un petit peu du haut du panier, si tu veux, pour pouvoir expliquer tout le reste et pour pouvoir t'expliquer comment tu dois procéder pour avoir la meilleure méthodologie possible. Comment du coup ça se plaçait dans les années 70, ok? Dans les années 70, il n'y avait pas tout ce qui est boulot de préparateur physique, etc. Il y avait un entraîneur qui faisait tout, ok? Qui faisait, par exemple, on va prendre l'exemple d'un tennisman, qui entraînait son sportif, hein, son tennisman, et il l'entraînait sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il faisait des smash, il faisait des coups droits, des revers, des montées au filet, etc., etc. Bon, je suis pas tennisman, mais je connais un petit peu le truc, et voilà, ça se passait comme ça, c'est-à-dire que les séances de la semaine s'étaient organisées sur technique, 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 et peut-être un peu à la fin, un peu de physique, ok? Sauf en préparation de saison où là, il y avait quand même un gros travail physique pour avoir un peu le foncier, on appelle ça la caisse si tu veux, pour que le sportif, il soit cardiovasculairement apte à faire les efforts que demande le tennis. Voilà, donc ça se passait comme ça. Donc, il y avait presque que des entraînements techniques, ok? Donc, des smashs, des montées au filet, etc., etc. Et pas d'entraînement physique, c'est-à-dire que le sportif, hormis en avant-saison, il allait très peu en salle de sport pour faire des choses de musculation, d'entraînement sportif, etc., d'entraînement musculaire et musculo-squelettique. Okay, donc vraiment pas travailler la technique, mais plus le physique. Donc il y en avait très peu. Et après les années 70, on s'est dit, ok, il y a une vision différente de l'entraînement qui est arrivée. C'est là l'émergence aussi des préparateurs physiques. C'est que du coup, il y avait un staff où bah, justement, il y avait un entraîneur. Hein, il y a toujours un entraîneur, même à l'heure actuelle. Et ce préparateur physique, il prenait le sportif en charge. C'est-à-dire qu'il y avait l'entraîneur qui faisait par exemple l'entraînement technique le matin, le physique l'après-midi ou l'inverse, etc. Donc, ça faisait technique, physique, technique, physique, technique, physique. Presque autant entraînement physique que technique. Okay, donc là, il y a eu un gros bouleversement. Après, on peut travailler, je te rassure, les sportifs récupèrent très très bien si on travaille de façon équilibrée et raisonnée. Okay, on peut récupérer 2 entraînements par jour, hein, c'est ce que font les sportifs de haut niveau, mais il y a pas mal de choses à mettre en place. J'en ai parlé pas mal dans mes podcasts pour t'amener aussi sur ça si tu en as envie, justement de récupérer plus vite. Voilà, je fouine un petit peu dans mes podcasts et tu sauras comment justement récupérer même de 2 séances par jour. C'est possible. Donc ça, c'est après les années 70, il y a eu l'émergence des préparateurs physiques. Forcément, les résultats étaient bien meilleurs qu'avant les années 70. Les sportifs, il y a eu une explosion un petit peu des records et des sportifs et de la performance en règle générale. Et d'ailleurs, au JO, hein, il n'y a jamais eu autant de records qui sont tombés que dans ces années-là. Et du coup, parce que on s'est rendu compte que la préparation physique, ça faisait progresser plus le sportif que de lui mettre que des entraînements spécifiques techniques, ok, donc pour l'image du tennisman, que de faire que des coups droits, que des revers, que des smash, bah ça te faisait pas progresser autant que d'alterner un coup tu fais du technique et un coup tu fais du physique. ça te donne de bien meilleurs résultats. C'est pour ça que je te dis de toi aussi faire ça si tu veux progresser, puisque c'est ce qui va te donner le meilleur résultat. Encore une fois, si ça marche pour le haut niveau, ça marche également pour toi. Mais le constat, c'est que, ok, les sportifs étaient beaucoup mieux entraînés, ok, ils étaient beaucoup plus performants surtout, mais les athlètes se blessaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent. Ok, ça c'est une réalité, c'est-à-dire que ils étaient certes beaucoup plus forts, beaucoup plus performants, mais beaucoup plus fragiles également, et on comprenait pas trop pourquoi ça arrivait. Et mais c'est vrai que le travail physique fait que tu te blesses beaucoup plus souvent. Alors ça c'est quand même assez dramatique, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, si tu veux, donc le travail physique ça se faisait, ça se fait toujours d'ailleurs en salle de sport. Et ce qu'il y a, c'est que tous les exercices un petit peu de musculation traditionnelle, hein, type bodybuilding, que du coup tu adaptes pour un sportif qui a envie de faire de la performance, hein, tu vas pas faire du bodybuilding à un sportif, ça n'aurait aucun intérêt. Et du coup, mais tu fais quand même les mêmes mouvements, grosso modo. Donc tout ce qui est développé couché, du squat, du rowing, du leg curl, etc. Tous ces exercices-là sont certes très bien pour, par exemple, augmenter la puissance, augmenter la résistance de quelqu'un, d'un sportif, etc. Ou même de transformer un physique. Si le sportif, il a besoin de perdre du poids, prendre du muscle, etc. Mais en aucun cas, ça diminue le risque de blessure. Et pire que ça, ça augmente son risque de blessure de faire tous ces exercices-là. Ok ? Pourquoi ? Bah, je vais te prendre l'exemple d'un boxeur. Ok ? Mettons maintenant tu es boxeur, tu te dis je vais faire du développé couché. Pourquoi tu te dirais ça si tu connais un petit peu la biomécanique et la science du sport, tu sais que les muscles qui permettent de frapper, donc pour un boxeur c'est très utile de pouvoir frapper quand même, donc de frapper avec les poings, un peu avec les pieds, c'est les pectoraux, les épaules et les triceps. C'est grosso modo ces muscles là qui permettent de frapper quelqu'un. Ok, donc quand tu sais ça, tu te dis je vais faire du développé couché, puisque le développé couché, muscles, les pectoraux, les épaules et les triceps. Ok, donc jusque là logique, tu veux frapper plus fort, tu entraînes les muscles qui permettent de frapper plus fort, c'est-à-dire les muscles du développé couché. Ok, puisque le développé couché lui-même reproduit un petit peu le mouvement de frapper une personne, même si tu pousses une barre. On pousse un petit peu comme si on frappait quelqu'un. Bref, donc tu es boxeur et tu fais du développé couché, du coup, pour augmenter ta puissance de frappe. Donc là, juste là, pas de problème. Mais du coup, tous les muscles qui permettent de frapper, la question, c'est que est-ce que si tu fais du développé couché pour augmenter ta puissance de frappe, est-ce que c'est la même chose que de frapper quelqu'un ? Voilà. Est-ce que le développé couché, bien qu'il reproduise un petit peu le mouvement de la frappe, est-ce que c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose de faire du développé couché que de frapper quelqu'un. Donc le boxeur, quand il va se retrouver dans un combat, il se peut qu'à chaque frappe, il soit trop puissant pour ce qu'il est capable de faire. Puisque on n'est pas dans ce qu'il a appris, si tu veux, à la salle, sur le développé couché, etc. Il va être beaucoup trop fort pour la réalité du terrain. Puisque déjà, il y a quand même un truc qui est évident, c'est qu'on frappe quelqu'un alors qu'on développe... Quand tu fais du développé couché, donc c'est le mouvement où on est allongé et on pousse une barre un petit peu au niveau des pectoraux, tout simplement. C'est le même mouvement, entre guillemets, au niveau un petit peu biomécanique. Mais par contre, déjà, à l'arrivée, quand tu frappes quelqu'un, il y a un impact, ok? Donc, tu vas heurter un torse, un visage, etc. Et en plus de ça, des fois, tu vas viser, si tu veux, tu vas viser la tête. Des fois, tu vas viser les oreilles. Des fois, tu vas viser le menton. Des fois, tu vas viser le torse. Des fois, tu vas viser le ventre, etc., etc., etc. Alors que dans un développé couché, tu pousses que sur un angle, ok, t'es fort que sur un angle, tout le reste des angles, si tu veux, tu peux pousser, donc développé couché, on pousse à la verticale, mais des fois quand tu frappes quelqu'un, tu fais pas un mouvement vertical, des fois tu fais un mouvement qui est un peu vers le haut si tu veux atteindre la tête, ou un peu vers le bas si tu veux atteindre le ventre, etc., etc. Et du coup, certes, tu peux changer un petit peu tes angles de développé couché, tu me diras, mais les angles, ils sont infinis, on peut pas travailler une infinité d'angles en salle de sport, et du coup, forcément, le boxeur va être amené à frapper sur des angles qu'il n'a jamais travaillé, ok, au niveau physique. Donc, il va être trop fort pour ce qu'il est capable de faire, et ce qui va amener justement sur la blessure, puisque les angles qui vont être travaillés, son corps va pouvoir se le permettre, si tu veux, il aura la puissance pour frapper fort dans des angles où il n'aura pas travaillé, mais du coup, il va être instable et du coup, il va se blesser. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, hormis les angles de travail, hein, comme je t'expliquais, qui sont déjà un problème, dans une frappe en boxe, c'est complètement différent que le développé couché pour une autre raison, c'est que déjà en développé couché, la charge elle est bien répartie de chaque côté, on a les talons bien au sol avec le dos plaqué sur le dossier, etc. Donc le boxeur, s'il fait du développé couché pour justement s'entraîner à être plus fort après en combat, ses muscles vont grossir, il va être plus puissant, ok, il va pouvoir frapper beaucoup plus fort, mais c'est dans certaines conditions qu'il va être beaucoup plus fort, donc dans les conditions du développé couché, ok, avec une barre qui est bien répartie de chaque côté, avec les talons au sol, le dos plaqué au dossier, etc. Et du coup, en conditions d'entraînement, il va être trop en condition d'entraînement, des fois il va être un petit peu déséquilibré, il va frapper en étant déséquilibré, en étant dans un appui instable, etc. En condition de stress, etc. Et du coup, il va être trop fort pour les conditions du réel, et c'est pour ça encore une fois qu'il va se blesser également. Donc c'est pour ça que je te disais que justement cette vision un petit peu de l'entraînement sportif, hein, même toi à ton niveau, hein, c'est à chaque fois il faut faire la métaphore sur toi à ton niveau, c'est tout ce que je dis est applicable également même si tu n'es pas sportif de haut niveau. Okay. Toi à ton niveau, si tu t'entraînes comme ça pour progresser dans ton sport, je sais pas si tu fais du tennis, de la boxe, de la course à pied ou n'importe quel sport, du triathlon, je sais pas ce qu'il peut avoir comme sport, mais voilà. N'importe quel sport que tu fais, si tu veux progresser, tu dois passer par un entraînement justement qui va être musculaire, hein, un petit peu comme je t'expliquais. Sauf que si tu fais ce type d'entraînement-là, donc en salle de sport, normal, tu vois, avec des conditions vraiment idéales, sur des machines, encore qui plus est, ça augmente encore plus le risque de blessure parce que là, tu es encore plus assisté et ça ne reproduit encore moins ce qui se passe dans la réalité, si tu veux. Donc voilà, ça va augmenter les risques de blessure puisque pour tous les arguments que je t'ai donnés, le fait de ne pas être en condition du réel et de ton sport. Voilà. Donc, tu deviens plus fort, mais tu deviens aussi plus faible d'une certaine façon parce que tu vas te blesser beaucoup plus facilement. Donc, à la place, depuis 2010, hein, c'est vraiment l'émergence, il y a eu quoi ? Il y a eu un autre type d'approche qui a été démocratisé, hein, puisque ça vient des États-Unis, ce type d'entraînement, le CrossFit, ok ? Le CrossFit, c'est une marque, hein, c'est pas vraiment un sport, c'est plus une marque, mais le CrossFit s'appuie sur des entraînements donc fonctionnels, ok ? Qui est différent du coup de la musculation traditionnelle qui n'est absolument pas fonctionnelle. Là, le CrossFit, qui est une marque qui n'est pas un sport, je le répète, et du coup, s'inspire justement sur l'entraînement fonctionnel. Donc, essayer d'apporter de la fonctionnalité à tout ce que tu vas pendant tes entraînements, ok, pour être beaucoup plus performant après en condition du réel. Donc, le CrossFit, moi personnellement, je n'apprécie pas trop le pratiquer. Parce que justement, les conditions où on la pratique en France et même aux États-Unis, enfin toute la marque un petit peu CrossFit, pour moi, elles ne sont pas idéales. Mais la méthodologie, n'empêche, est super intéressante et est vraiment excellente. C'est peut-être pour ça que ça plaît autant, puisque du coup, la vision d'entraînement du CrossFit est beaucoup plus sensée par rapport à ce qu'on peut retrouver et comment ça peut aider les personnes justement dans leur préparation sportive. Donc, si tu es sportif et que tu veux t'améliorer, déjà dirige-toi plus vers le CrossFit, ça sera mieux que rien, plutôt que vers de la muscu où tu vas faire des machines, etc. en salle de sport traditionnelle. Donc ça, c'est mon avis, mais voilà, ça sera mieux que rien et ça sera mieux que aussi la musculation traditionnelle. C'est pas encore idéal pour plein de raisons, surtout pour les raisons de budget, il n'y a pas d'encadrement nécessaire suffisant dans le CrossFit, mais ça, c'est un autre débat, mais n'empêche que l'approche est intéressante. Après, si tu y connais un petit peu, tu peux aussi faire du cross-training, hein, donc c'est l'entraînement fonctionnel, grosso modo, où tu peux le faire seul ou avec quelqu'un qui s'y connaît. Et dans ces cas-là, ça sera beaucoup mieux, tu pourras être plus encadré si tu sais ce que tu fais. Voilà. Dans ces cas-là, du coup, tu pourras, je vais te donner un petit peu les grandes lignes de l'entraînement fonctionnel. Ça va être très difficile de forcément de te les résumer en 2-3 minutes, mais je vais quand même essayer. Si tu veux, l'entraînement fonctionnel, ce qui le différencie un petit peu de l'entraînement traditionnel, hein, de la musculation traditionnelle, c'est tout simplement déjà en échauffement, ok? On va pas échauffer forcément que les muscles, on va aussi échauffer le système neuromusculaire. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ça, le système neuromusculaire? C'est-à-dire qu'en vrai, tu vas réapprendre durant l'échauffement, tu vas réapprendre à ton cerveau à faire des mouvements qui vont être primaires. Ok, qu'est-ce que j'entends par primaire? Ça va être des actions que n'importe quel être humain est en capacité de faire à la naissance et qu'il va perdre, si tu veux, ou pas, hein, ça dépend des gens, mais généralement, les gens perdent ces actions-là durant leur vie, ok? C'est des actions qui sont extrêmement simples et pourtant que les personnes n'arrivent plus à faire, comme marcher, courir, sauter, ramper, s'accroupir, etc., etc., etc. Voilà, et petit exemple tout bête, tu vas me dire, moi, je sais marcher. Oui, tu sais marcher. Alors, des fois, il y a des façons de marcher, il y a des façons... des fois, avec ton environnement, tu t'es peut-être même pas rendu compte que tu ne marchais plus comme tu marchais à 5 ans, peut-être. Tu vois, donc déjà, il y a du travail à ce niveau-là. Et même sur le fait, par exemple, de s'accroupir. Alors ça, c'est un test simple. Si tu es dans une rame de métro, ça va être un petit peu compliqué de faire le test pendant que tu m'écoutes. Mais si tu es, je sais pas, dans un environnement un petit peu tranquille, tu peux faire le test du squat asiatique. Ok, le squat asiatique, c'est on fait un squat si tu veux complet chez complet où on essaye de toucher les fesses des talons. Ok, donc tu te mets en position, tu t'accroupis et t'essayes de toucher avec tes fesses tes talons. Essaye de faire ce mouvement-là et ça c'est un mouvement si tu veux que tu arrivais à faire par exemple à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans et que tu n'arrives peut-être plus à le faire maintenant. Et ça, forcément, ça cause des problèmes de mobilité et c'est ce qui cause aussi des problèmes de blessure. Ok, donc ça, c'est pour toute la partie échauffement et où on essaye de donner un maximum de mobilité. Et une fois qu'on a maîtrisé et remaîtrisé, réappris à faire toutes ces actions du coup neuromusculaires qui sont simples, on peut terminer par des mouvements qui sont plus complexes comme, je sais pas, marcher sur les mains par exemple. Ok, donc voilà. Donc ça sert d'échauffement, de routine d'échauffement, et du coup, voilà, ça permet de rééduquer un petit peu le cerveau à bouger dans l'espace. Et c'est ça qui est fonctionnel, c'est apprendre à bouger correctement dans l'espace. Et c'est ça que n'apprend pas du coup toutes les zones, toutes les méthodes de musculation traditionnelles. Et avec ces actions-là, on peut déjà progresser sur un plan d'endurance, sur un plan de force, etc. Tout comme la musculation traditionnelle. Hein. C'est deux entraînements qui sont différents, mais qui ont au final les mêmes buts. Donc développer les qualités physiques du sportif, mais qui n'ont pas les mêmes méthodes. Okay. Et après, une fois qu'on a fait cet échauffement-là, okay, donc une fois qu'on a réappris à bouger dans l'espace, qu'on a réveillé aussi la mobilité du sportif, là, après, on va pouvoir rentrer dans le cœur de séance où on a un entraînement qui est intense, qui est physique et un petit peu comme le crossfit où on essaye de ne rendre pas un sportif fort sur un angle donné, hein, comme l'exemple du développé couché où tu vas pousser la barre à l'horizontale, bien droit, sur un ton dos calé sur un dossier, avec la barre qui pousse du coup à la verticale, pas à l'horizontale, pardon, etc., etc. Et bah du coup, on va essayer de bosser sur une multitude d'angles de travail pour par exemple développer les pectoraux, hein, comme l'exemple du développé couché. On va travailler sur une multitude d'angles et sur des appuis qui sont instables, ok, du coup pour reproduire un petit peu les conditions de la réalité des choses en fait. Donc voilà, on va essayer justement de créer de l'instabilité, de pousser un petit peu au lieu de chercher justement le plus de kilos sur la barre possible. Donc on va se mettre dans des conditions idéales pour pousser de plus en plus lourd, pousser de plus en plus lourd, etc. Là, on a la démarche qui est inverse, où on va pas essayer de pousser de plus en plus lourd, mais de pousser peut-être une charge. Au bout d'un moment, on sera obligé d'augmenter le poids parce que ça devient trop facile, mais de prendre une charge et d'essayer de la maîtriser sur l'ensemble des angles avant de passer sur la charge au-dessus. Ok, tu vois un peu la différence? C'est une approche qui est différente. Et du coup, quand le sportif se retrouve en situation réelle et en situation sportive, et du coup, il maîtrise sa charge sur l'ensemble des angles et pas sur un seul angle. Et une fois qu'il a maîtrisé sur l'ensemble de ses angles, et on passe au step au-dessus. Et au step au-dessus, on rajoute un peu de poids, de difficulté, d'appui instable, etc., etc., etc. Et le sportif progresse comme ça. Il ne progresse plus sur, on rajoute un kilo, puis 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 un kilo, un petit peu bêtement, si tu veux. C'est l'entraînement fonctionnel, c'est ça. C'est un entraînement, du coup, qui va être fonctionnel parce que, justement, il reproduit un petit peu les conditions du réel. Et pour ça, du coup, on a besoin, ce qui est en plus génial, c'est qu'on a besoin de pas beaucoup de matos. On a besoin, grosso modo, de TRX, ok, donc c'est des sangles de suspension que tu peux accrocher n'importe où, justement pour créer de l'instabilité. On a besoin de kettlebell. Le kettlebell, c'est un outil absolument fabuleux que je croyais savoir utiliser il y a quelques années et que j'ai réappris à utiliser maintenant, depuis un petit moment, mais que j'ai réappris quand même à utiliser, et des élastiques, etc. Le kettlebell, alors il y a beaucoup, sangles de suspension, normalement les gens voient. Le kettlebell, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Tu taperas sur internet, ça sera plus simple, mais c'est une sorte de petite boule avec une poignée au-dessus qui permet de faire des mouvements assez complexes et très fonctionnels. Voilà. Donc, voilà ce que c'est l'entraînement fonctionnel, hein, donc l'entraînement qui se calque justement aux conditions du réel et à la réalité du sportif et de son entraînement et de ses performances. Voilà, si tu veux, je peux te le résumer comme ça. Et du coup, c'est une approche qui est beaucoup plus moderne. Et du coup, pourquoi cette approche, j'en finirai par là, pourquoi cette approche, pour moi, n'est pas plus démocratisée, parce que ça paraît plus magique, puisque ça paraît magique, parce que du coup, le sportif progresse, mais il n'est plus blessé. Pourquoi du coup, on continue à matraquer sur une méthode qui marche à moitié, ok, donc qui marche en termes de développement des qualités physiques, mais qui ne va pas marcher sur du long terme, puisque le sportif, au bout d'un moment, il va se blesser. Donc, pourquoi cette approche, elle n'est pas plus démocratisée? Tout simplement parce que, c'est une toute petite partie des gens qui le pratiquent. Alors, forcément, ça met du temps à émerger, ok, parce que parmi les gens qui s'entraînent, ok, il y en a 90%, 95% qui vont avoir un abonnement en salle de sport et qui vont faire de la musculation traditionnelle. Et il y en a peut-être que 5% qui vont faire du crossfit. Ok, donc déjà, c'est beaucoup plus courant de trouver quelqu'un qui est inscrit à la salle de sport que quelqu'un qui est inscrit à une salle de crossfit. Donc déjà, il faut le temps que ça émerge. Et après, il y a une réalité aussi, c'est que les résultats, ils sont beaucoup plus longs à obtenir. Ok, par ce type d'entraînement, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Et du coup, forcément, dans un monde, si tu veux, pour faire un petit peu de philosophie, où l'image de soi, elle n'a jamais été aussi importante. Ok, les gens ont un besoin de reconnaissance, un besoin aussi de reconnaissance de leur image, ok, notamment à travers les réseaux sociaux. Et la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire de la musculation traditionnelle et de promouvoir son physique sur les réseaux sociaux que, par exemple, de marcher sur les mains, ok. C'est beaucoup plus facile de transformer son corps que de marcher sur les mains, hors exception, quand on est sportif en tout cas. C'est quelque chose qui met du temps et c'est beaucoup plus facile de montrer une photo d'un physique qui du coup s'obtient beaucoup plus rapidement avec de la musculation traditionnelle que de l'entraînement fonctionnel. Néanmoins, l'approche du coup de l'entraînement fonctionnel est beaucoup plus long terme, peut être réalisée notamment toute sa vie, ok, ce qui n'est pas non plus le cas après 40-50 ans. Ça peut être compliqué la musculation traditionnelle, alors que l'entraînement fonctionnel, lui, permet justement de sentir bien et de sentir beaucoup mieux tout au long de sa vie. Et le sportif, lui aussi, en tire des bénéfices, comme je te l'ai montré. Mais voilà, tout le monde, il tire parti à n'importe quel âge. Et c'est ça qui fait sa force. Mais c'est beaucoup plus long à obtenir des résultats qui sont concrets. Et ça fait faire des résultats qui vont être linéaires sur du long terme. Alors que l'entraînement musculaire traditionnel va te faire des résultats qui vont être exponentiels jusqu'à un certain point. C'est la blessure, malheureusement, très, très, très souvent. Voilà. Donc, la différence entre l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle. Je t'ai expliqué un petit peu ce que j'en pensais, comment je voyais les choses. Libre à toi, justement, de ne pas être d'accord avec moi. Mais dans ces cas-là, tu n'as qu'à m'écrire un commentaire où tu peux, ou m'écrire un message privé sur Instagram ou quoi. C'est @sport-santé-nutrition podcast sur Instagram si tu veux me poser des questions. Tu peux aussi me lâcher un avis 5 étoiles si le podcast t'a plu, ok, ou même écrire un avis sur mon podcast, sur Apple Podcast, et dans ces cas-là, pour me faire un retour sur l'émission et sur l'épisode. Maintenant, si tu vois que toi, tu as une approche du coup de l'entraînement fonctionnel, cette approche d'entraînement fonctionnel te plaît et que du coup, peut-être que tu stagnes dans ta pratique sportive, que tu as envie de passer un palier, que tu veux te challenger, que tu veux plus être blessé, ok ? Moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous, ok ? Un rendez-vous personnalisé avec moi de 30 minutes à peu près. Hein, ça dépend si on est bavard oui ou non, mais grosso modo, ça va être aux alentours d'une trentaine de minutes où bah justement tu vas m'expliquer un petit peu ta situation et moi je vais te filer des conseils pour t'aider au maximum pour te faire passer un cap dans ta pratique sportive. Et à la fin de ce rendez-vous, je vais être très honnête avec toi, voilà, je te proposerai aussi mes services d'accompagnement personnalisé haut de gamme à distance pour justement bah t'accompagner au quotidien dans ta pratique sportive et dans ta transformation physique, préparation physique, etc. Donc voilà, il faut pas hésiter, tu as un lien du coup qui est en description pour prendre rendez-vous. Ou alors, si le lien en description ne marche pas, tu peux aussi te rendre sur mon site sportsantenutrition.com. Tu vas sur l'accueil et tu cliques pour prendre rendez-vous. Voilà, voilà. Donc, on a fini pour les différences entre l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, lâche 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs !